On ne s'est pas concerté. Et le sujet de ma méditation, c'est la joie du salut. Je voulais prendre, et je vais les prendre, trois psaumes. Et voilà que Alex utilise un psaume, pas celui-là, hein, je prends d'autres psaumes, que Emmanuel nous ramène toujours à cette certitude du salut. Et voilà que moi, tout d'un coup, j'ai envie de parler de la joie du salut, je l'ai préparé depuis quelques jours, quoi, hein, sans qu'on se concerte, quoi. Alors, j'ai vraiment à cœur de continuer ce que Emmanuel vient de dire, que les deux Emmanuels viennent de dire, je les remercie. Vous savez très bien que lorsqu'on a été sauvé d'un grand danger, on est bien plus heureux que lorsqu'on a été sauvé d'un tout petit danger. Ça, c'est logique. Ça part de soi. Et nous allons prendre donc dans quelques textes de la Bible cette joie qui s'exprime dans ces psaumes, qui bien sûr sont dans l'Ancien Testament et qui ne nous donnent pas la joie du salut comme nous l'avons, et ce qui a été évoqué par Emmanuel, c'est-à-dire cette certitude du salut. Mais nous voyons quand même, dans ces psaumes, il y en a plusieurs, il a fallu que j'en prenne trois, donc j'en ai pris trois, qui montrent que celui qui a chanté le psaume, d'ailleurs il n'y a pas que trois psaumes, il y en a d'autres, il y a Anne aussi qui a un psaume dans 1 Samuel, vous savez qu'il y a aussi des psaumes un peu partout dans la Bible, pas forcément que dans les psaumes, qui expriment cette certitude, cette joie du salut, mais d'abord la joie du salut qui vient avec la certitude. Et donc, dans un psaume de David, le 138, dans un cantique des degrés, le 126, et dans un autre cantique des degrés, le 124, nous allons évoquer la joie du salut, si vous le voulez bien. D'abord le psaume 138. Je commence par le 138, puis je descends. Hein. Le roi David exprime sa joie d'avoir été exaucé. Il est venu au temple, il s'y prosterne, il a goûté que Dieu était fidèle et bon, et qu'il avait accompli ses promesses. Et il dit pourtant, j'ai été dans la détresse. Mais au milieu de cette détresse, il dit lui-même qu'il a senti Dieu, qui lui rendait la vie, qu'il était protégé de ses ennemis par une action particulière. C'est la fin du verset 7 dans le psaume 138. Ta droite me sauve. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi et qu'il y avait une main qui m'a sauvé. Ce genre d'impression, vous voyez. Ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est sur la joie de sentir la grandeur de Dieu, la grandeur du cadeau de Dieu, alors que Dieu aurait le droit de ne pas s'occuper de nous. Il est grand, il est ailleurs, et comme dans certaines religions, il est tellement loin que finalement il ne peut pas s'occuper de moi, mais le tout petit là, celui qui est là. Et c'est ce qu'on voit dans le psaume 138. David, tout petit. C'est ce bonheur d'un enfant, et nos enfants devraient le sentir, j'espère. Enfin, surtout quand ils ont été petits, quand ils sont plus grands, ils sont plus costauds, mais quand ils sont petits, qu'ils sentent qu'on s'occupe de lui, qu'ils ne sont pas une quantité négligeable. Et vous savez que quelquefois, chez les enfants, les problèmes psy, c'est en général que ce sont des électrons libres, on s'en fiche, les parents trouvent que c'est pas intéressant de s'occuper de l'enfant. Et ça va créer des problèmes psy chez l'enfant dans son âge adulte. Et cette réalité du bonheur de l'enfant qui voit qu'un très grand le regarde et s'occupe de lui. Et c'est ce qu'on voit dans ce psaume 138 pour David et Dieu. David sait qu'il est un tout petit. Et il sait aussi que les orgueilleux sont très dangereux, parce qu'il évoque ça dans le psaume 138. Les orgueilleux sont très dangereux. Un orgueilleux, par définition, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est très dangereux parce qu'il cherche à établir sa grandeur. Et comment il fait pour établir sa grandeur? Ben, il réduit les autres. Et donc, moi qui suis tout petit, c'est sûr, je vais être anéanti. C'est ce qu'on voit dans ce psaume. Détruit. Et non, dit David, au verset 6, l'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alors on récapitule, si vous voulez, le psaume 138. La joie du salut dans le psaume 138, c'est de voir de ses propres yeux l'action de Dieu alors qu'on est petit. On estime qu'on est trop petit pour que Dieu puisse s'occuper de notre salut. Mais il le donne quand même. La joie du salut dans le psaume 138, c'est aussi autre chose. C'est aussi de voir qu'il y a des incroyants qui l'ont vu, ce salut. Que des gens importants aussi l'ont vu. Que Dieu montre aux grands de ce monde qu'il sauve les petits. Dieu, en sauvant les petits, il les réhabilite. Il les fait asseoir avec les grands. J'évoque là ce que Anne a subi. Vous vous souvenez, Anne, ce qu'elle a subi. C'était une petite méprisable. Elle était mariée, elle était aimée par son homme. Mais il y avait une mère porteuse, parce que elle était vraiment dans l'opprobre, comme toute femme à l'époque, et comme certaines encore aujourd'hui le sentent. C'est terrible d'être petite. Et elle dit, il fait asseoir avec les grands. Il les sauve, il les réhabilite. Mais attention, le petit reste petit. Hein. Vous savez que David est resté petit. Saül, non. Donc voilà. Alors maintenant, on va le lire, ce psaume 138, avec toute cette chose que je vous évoque. De David, psaume 138, hein, de David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Cette main qui était à côté de lui. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. On va arrêter là pour le psaume 138. Vous voyez, cette mentalité du salut. Je ne mérite rien, mais c'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, passons au psaume 126. Dans ce psaume 126, les exilés d'Israël sont de retour à Jérusalem. En fait, ils n'y croyaient plus. Exilés à Babylone, ils avaient l'impression que leur nation, eh bien, c'était fini, et bien fini, c'était terminé. Mais Dieu avait promis, dans Jérémie, chapitre 25, verset 12, que 70 ans après l'exil, tous ces gens reviendraient dans le pays d'Israël. Il l'avait promis. Et voilà que c'est arrivé. Alors ils sont étonnés. Ils sont comme dans un rêve, verset 1 du psaume 126. Cet étonnement devant l'intervention de Dieu, on le voit souvent dans la Bible. Cette foi qui veut se faire, qui veut s'exprimer, comme l'a dit Emmanuel, et puis on est étonné que ça se passe. Vous vous souvenez d'Eliezer, assis au bord du puits, il regarde avec étonnement la prière qu'il vient à peine de terminer et qui s'exauce devant ses yeux. C'est ça aussi la joie du salut. C'est d'être étonné de voir Dieu exaucer une demande que nous avons faite et que nous pensions impossible. Allez, on peut l'avouer, hein. On pense que c'est impossible et puis ça se fait devant nos yeux. Vous vous souvenez d'Anne qui regarde avec étonnement son ventre grossir, elle qui pleurait régulièrement au temple, tous les ans, en voyant son mari donner des cadeaux à l'autre femme. Vous vous souvenez de l'église de Jérusalem, inquiète, qui prie toute la nuit pour que Pierre ne soit pas décapité le lendemain matin? Et débordement de joie d'être dans un conte de fées, alors que c'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Mais voilà la joie du salut, des choses qui nous semblent impossibles et qui finalement se réalisent. Le retour de Babylone, un véritable conte de fées. Rebecca qui remplit d'eau les bassins pour les chameaux. Un véritable conte de fées. Anne stérile qui aura 4 fils et 2 filles. C'est un conte de fées. Pierre qui frappe à la porte en pleine nuit. Hey, vous allez m'ouvrir, non ? Hein, c'est un véritable conte de fées. Ça, c'est aussi la joie du salut. Donc, dans le psaume 126, d'autres aspects de la joie du salut. C'est l'étonnement devant la réalisation d'une promesse de Dieu que nous avons du mal à croire possible, et comme dans un rêve, et qui se fait quand même. La joie du salut dans le psaume 126, c'est aussi la prise de conscience que le réel parfois douloureux ressemble à celui d'un fermier qui ne voit pas tout de suite le résultat de son travail. On va le voir dans le psaume 126. Il y a de ça dans la joie du salut. Et ça veut dire aussi que c'est la souffrance. Dans le psaume 126, on parle de la joie du salut, mais on parle de la souffrance avant. La souffrance qui fait partie du processus qui nous amène à la joie du salut. Et on se remémore et on voit. La joie du salut, c'est d'abord une période un peu difficile. Et voilà, nous regardons en arrière avec joie, en goûtant le salut de Dieu qui est arrivé, en disant « Oh, finalement, je suis content d'être passé par là. » C'est drôle, hein ? Parfois, le « par là » dont on a parlé, il est terrible. Mais on peut le regarder et être heureux et exprimer la joie du salut. Eh bien, si on y lisait le psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Hein, l'été. Tout d'un coup, il y a un orage, oh là, il y a un ruisseau, et il est plein d'eau. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On sent toute la force de la joie du salut, sans oublier la souffrance. Mais lorsqu'on est dans la souffrance, on peut se dire qu'on aura la joie du salut, même si tout d'un coup, il y a comme une petite baisse de régime. On l'aura. Voilà le psaume 126. Alors évidemment, maintenant on passe au psaume 124. On passe au psaume 124. Dans ce psaume 124, deux psaumes avant, hein, dans ce psaume, David se rend compte que le salut tient à peu de choses. Le salut tient à peu de choses. On pourrait dire, voilà, j'ai été sauvé in extremis. C'était moins une. J'étais sur le fil du rasoir. David est vraiment un homme qui a expérimenté ce qu'est l'hostilité. Il comprend que l'Éternel protège. Il se l'est dit avant d'avoir subi l'outrage. Mais ensuite, après avoir subi cet outrage, il dit « Avant, je savais que l'Éternel me protégeait. Mais maintenant, je comprends à quel point Dieu est capable de me protéger. » Oui, j'avais bien conscience qu'il avait la capacité de me protéger. Je pouvais étaler ma foi en disant que j'avais vraiment confiance en la protection du Seigneur. Mais maintenant, je me rends compte de la gravité, de l'ampleur du danger. Il y a des ennemis, là même où on ne les attend pas. David dit maintenant, je sais. C'est la différence entre, si vous voulez, la foi professée et la foi vécue. Il ne faut pas mépriser la foi professée. On pourrait se moquer des gens qui disent avoir la foi, mais on pourrait aussi comprendre que Dieu les mettra un jour, au temps fixé, à l'épreuve de leur foi. La foi professée, c'est quand même la foi. Quelqu'un dit qu'il a la foi, mais c'est par ses actions et dans les circonstances vécues qu'il pourra prendre conscience du salut de Dieu. Lorsqu'il aura agi au moment de l'épreuve que Dieu lui envoie, il pourra dire, oui, maintenant Dieu a éprouvé la foi que je professais et il en a fait une foi un peu mieux vécue. Je savais que Dieu me protège, j'en étais certain, je disais ma foi, mais là maintenant, j'ai expérimenté le salut de Dieu. J'ai vraiment compris que je ne savais pas grand-chose des dangers à proximité. Et Dieu a affermi ma confiance en lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai vu dans ma vie les indices de ta présence que tu me fais repérer dans les circonstances de ma vie. Ces indices me rassurent. Dans ce psaume 124, on s'aperçoit que David a pris conscience de la gravité de la situation, de l'hostilité impressionnante contre sa personne. Il en avait une vague notion, mais maintenant, il se la coltine en face. Il dit, en gros, hein, en français courant, ils sont tellement costauds qu'on n'aurait même pas eu le temps de prendre conscience qu'on périssait, qu'on perdait la vie. C'est les versets 3, 4, 5. C'est ça le premier point du psaume 124. Ils sont tellement costauds. Maintenant, le deuxième point du psaume 124, c'est curieux. On s'y habitue, mais c'est curieux. C'est ceci. On pourrait penser que David sera sauvé par une action grandiose de Dieu. Vu la grandeur des ennemis, en face, il y a un général avec un corps d'armée. Et c'est la grandeur de Dieu face à la grandeur de Satan. Hein, en gros, c'est ça. On pourrait penser ça. On pourrait penser que ça va être la méthode de Dieu contre ses adversaires puissants. Eh bien, pas du tout. David a été sauvé comme en catimini. Juste comme dans la fable de la fontaine, vous savez, le lion et le rat. Il a fallu que le roi lion accepte l'intervention du plus misérable des animaux pour qu'il puisse être libéré des filets dans lesquels il s'était pris. Même chose pour David. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Finalement, Dieu sauve David, sans fierté possible pour David. Vous vous souvenez de Naaman ? Naaman, il pouvait penser que le prophète allait sortir, il ferait quelque chose de grandiose, avec des trompettes peut-être, je ne sais pas, ou, hein, pour le guérir, pour le sauver de sa lèpre. Et le prophète allait faire un geste théâtral avec ses mains et il aurait été guéri. Et Dieu sauve Naaman sans fierté possible pour lui. Plouf, dans le Jourdain, devant tout le monde. Et cette fois, en plus. On récapitule. La joie du salut dans le psaume 124, c'est la prise de conscience que la dimension de l'ennemi est bien plus énorme que ce que nous imaginions. Et lorsqu'on voit qu'on a été sauvé de ça, comme je vous dis au début, quand on sait que c'est un grand danger, qu'est-ce qu'on est content. La joie du salut dans le psaume 124, c'est aussi de comprendre que Dieu peut sauver d'une manière tellement discrète, parfois, qu'on peut ne pas s'apercevoir que c'est lui qui a coupé le filet. Nous donnant un salut plein et entier, discrètement et sans gloire pour nous, mais véritable. La joie du salut dans le psaume 124, c'est aussi de comprendre que Dieu a fait les cieux et la terre. C'est marqué hein, dans le psaume 124, on le savait, mais bon, c'est marqué dans le psaume 124. Dieu a fait les cieux et la terre, des choses grandioses, mais il peut tout aussi bien nous sauver d'une manière moins grandiose, et ça, ça nous évite de nous croire prestigieux. Alors maintenant, dans l'état d'esprit où nous sommes, nous allons lire le psaume 124. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis. Tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il fit les choses grandioses, et même en coupant le filet, juste une maille, il fait des choses grandioses. Voilà le salut de Dieu, la joie que ça procure pour nous. Ce n'est pas forcément des choses grandioses, et ça reste quand même grandiose, sans qu'on puisse en prendre fierté et en voyant la main de Dieu. Il existe d'autres psaumes qui parlent du bonheur d'être sauvé par grâce. Et le psaume 1, et le psaume 31, et le psaume 32, il y en a plein. Il fallait bien que je fasse un choix. Hein. Nous avons donc trop tendance à scinder l'Ancien Testament du Nouveau Testament, je pense, lorsque l'on parle de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Il y a le psaume 32, au verset 1. Ça a été évoqué. Hein. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. C'est dit comme ça. Mais dans l'ambiance où nous sommes, c'est la joie du salut. C'est ça la joie du salut. Ça nous a été évoqué par Emmanuel, finalement, je n'ai pas besoin de parler. Mais dans le Nouveau Testament, c'est autre chose. C'est un salut accompli. Un salut parfait, nous le savons. Comme dans l'Ancien Testament, nous aussi, nous sommes heureux du salut de Dieu. Et nous avons de plus amples arguments pour dire notre bonheur d'être sauvés par Dieu. De plus amples arguments. Romains 4, 25, ça a été également évoqué, c'est extraordinaire. Hein je sais pas, il y a le Saint-Esprit qui agit, je suppose. Hein. Jésus a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Il n'a pas été simplement tué pour nos fautes. Il est aussi sorti et nous a confirmé par sa résurrection que ce salut, il est costaud. Il n'est pas comme celui de l'Ancien Testament où il fallait, comme toujours, vous le savez bien, retourner au temple et à chaque fois aller à confesse, et continuer. Hein, voilà. Ici, maintenant, c'est fini. On peut toujours confesser à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités parce qu'il a présenté son propre sang. Non pas dans le temple de Jérusalem qui n'existe pas, mais dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme et qui est dans les cieux. Alors, si je reprends le psaume 138 où on disait « Je suis un tout petit qui voit que Dieu s'occupe de moi », dans le Nouveau Testament, j'ai mis ça en parallèle avec l'aveugle Bartimée. Tout petit, il ne sait plus, il ne sait rien, il crie pour être au moins voyant, de voir. Et vous savez que Jésus évoque ensuite, au moyen de cet aveugle qui voit, que certains pensent voir et qu'ils ne voient pas. Dans le psaume 138, on a vu aussi que Dieu rétablit les petits, il les réhabilite et il les fait asseoir avec les grands. Et l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, « Vous jugerez les anges, vous jugerez le monde. » Il dit ça des disciples. Enfin, des disciples, pas des 12 disciples, hein, de tous les disciples, de tous les chrétiens. Hein. Vous jugerez le monde, vous jugerez les gens, les anges. À des petits sont réhabilités par Dieu. Vous savez que dans le grec « sozo »,« sauvé », ça veut dire sortir enfin, un maître nageur qui va plonger, qui va sauver un enfant en train de se noyer. Mais ça veut dire aussi que quand l'enfant est sur la berge, imaginez que le maître nageur laisse tomber l'enfant et qu'il se retrouve au milieu de la forêt. Sozo, c'est aussi la réhabilitation. C'est reprendre quelqu'un de là où il était tombé et le remettre dans son statut qu'il devait avoir et qu'il n'a peut-être jamais eu. Donc, quelquefois, il y a des traductions qui sont quand même à remodifier dans la parole de Dieu, où on confond salut et réhabilitation. Jésus nous a sauvés de manière parfaite, complète, et puis ensuite, il nous sanctifie, c'est-à-dire il nous réhabilite, il continue à nous sauver, mais on est complètement sauvés, mais il continue à nous construire. Mais ça, c'est important de voir que parfois, il y a des versets où c'est plutôt réhabilitation, parfois c'est réhabilitation salut, et parfois c'est uniquement salut. Hein, voilà. Bon, une petite aparté. Hein. Donc Dieu réhabilite les petits. Il les fait asseoir avec les grands. Vous jugerez les anges, mes frères et sœurs, vous jugerez les anges, moi aussi, et le monde. La joie du salut dans le psaume 126, on l'a vu, c'était l'étonnement d'un salut possible comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Et dans le Nouveau Testament, j'aimerais bien qu'on lise un truc. Je me suis dit, tiens, Emmanuel, il va certainement encore prendre le même verset que je voulais prendre, pratiquement. Hein, mais c'est dans Luc, au verset 24, 44 à 53. dans l'optique, hein, dans l'esprit du rêve, si vous voulez. Hein. Prenons-le dans cet aspect du salut qui nous émerveille. Vous dites, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et il est dit, Luc 24, 44 à 53. Et puis Jésus leur dit, c'est là. Hein, là, L-A, accent grave, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem et ensuite en Samarie. Jusqu'aux extrémités du monde. Hein? Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux. Après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, la joie du salut. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils avaient été là. Nous, on aurait bien aimé, hein, aussi. Mais on aurait été enivrés par ce rêve réel, par ce conte de fées qui se réalise, Jésus ressuscité, qui est le garant de notre salut plein et entier. Incroyable, cette histoire. Ben oui. Dans le psaume 126, il y a aussi la joie du salut dans le sens que c'est que la joie est au rendez-vous parce qu'il y a eu un laboureur, un semeur et un résultat. Et ça, je l'ai retrouvé, on le retrouve un peu partout, mais j'ai aimé prendre un verset de l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 7. Épître Jacques, 5, 7. Soyez donc patients, frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Est-ce que c'est un règlement? Est-ce que c'est un ordre à nous donner? Je crois que Jacques nous dit, vous êtes tellement heureux de la joie du salut. Vous êtes tellement dans ce bonheur de rêve qui s'est accompli que vous pouvez comprendre qu'il y a un système, il y a un processus, que vous n'êtes pas encore arrivé à ne plus souffrir, mais cette souffrance ne vous enlève pas votre joie du salut. Je ne fais que répéter ce qu'a dit Emmanuel, mais c'est peut-être nécessaire. La joie du salut dans le psaume 124, c'est la prise de conscience de la dimension de l'ennemi aussi. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai été sauvé par grâce, Seigneur, machin. » Oui, puis on dit « Mais est-ce que tu prends conscience de quoi tu as été sauvé ?» Alors quand on est jeune converti, quelquefois, on en prend conscience de manière très forte. Puis quelquefois, c'est « Oui, j'ai été sauvé par grâce. » Il y a même donc une secte qui dit « Oui, après cette petite formalité, nous allons commencer à travailler. Hein? » Voilà. C'est une vision des choses qui n'est pas vraie, enfin qui n'est pas normale. Je crois que si nous avons la joie du salut, et nous l'avons, et je peux dire je l'ai, mais je peux dire aussi que je devrais parfois être bien plus conscient de ce qu'est le salut de Dieu. Et que cette joie que j'ai, Je ne peux pas m'enorgueillir parce que je devrais être encore plus joyeux que je ne suis. La dimension de l'ennemi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8 à 11. Mais il est dit aussi, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le voyage du pèlerin, vous savez, de John Bunyan. Hein, il y a le lion qui est là, et puis fidèle, ou enfin Chrétien arrive et puis de loin il est impressionné parce qu'il se dit mais je ne vais pas pouvoir passer par le précipice là, juste là il y a le lion qui est là quoi. Hein. Et puis en s'approchant, il s'aperçoit que le lion peut rugir, mais qu'il est enchaîné. Donc il passe. Salut. La joie du salut dans le psaume 124, c'est là-dessus ma conclusion. Hein. Dieu grandiose peut sauver d'une manière discrète. Et quand même totale, discrète et totale. Le filet de l'oiseleur, quick, le petit rat qui coupe pour le roi, et le roi est tout content. Vous remarquerez que le lion et le rat, il y avait un lion. Tandis que pour David, il dit « je suis un petit oiseau hein ». D'accord, il y a une différence. Hein. Et même lui, le roi David, dit qu'il est, il est comme sauvé du filet des oiseleurs. Que c'est lui une petite créature insignifiante, n'est-ce pas ? Et Dieu coupe le filet. Et permet que son petit oiseau, qu'il aime beaucoup, puisse être sauvé. Voilà. C'est quand même surprenant la manière de Dieu de donner le salut. On y est très habitué. On en a parlé. Golgotha, le crâne, les deux brillants. Ça fait. Si on regarde un tableau de Rembrandt, c'est solennel. C'est presque grandiose. C'est grandiose. On le sait que c'est grandiose. C'est le salut de Dieu est grandiose. Enfin, mes frères et sœurs, que disent le monde, que dit le monde sur Jésus ? Il a échoué. Jésus n'était qu'en Palestine, pas fait le tour du monde comme Barack Obama ou n'importe qui. Finalement, son intervention était un petit peu trop discrète. Il aurait mieux fait de sauter du haut du temple, comme Satan lui avait dit de le faire. Oui ? Il a guéri, oui. Quelques malades, oui. Il a rendu la vue aux aveugles, ouais. Mais sa mort, vraiment, ça n'a pas été très glorieux, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il vous a réellement sauvé ? C'est ça qu'on entend dans le monde. C'est Christ, oui. Bon, pas important. Oui, Jésus m'a donné la joie de son salut. Il m'a fait asseoir avec les grands. Il m'a sauvé comme dans un rêve. J'ai vu le laboureur, j'ai vu le semeur et tous ceux qui ont œuvré pour que moi j'arrive au salut, moi tout petit. J'ai compris un peu de quel horrible guépier Dieu m'a fait sortir. J'ai pris conscience de la dimension de l'ennemi. J'ai compris que le simple charpentier de Nazareth, discret, qui n'avait rien pour attirer les regards, a coupé le filet, qui retenait le monde dans la mort, et qu'il a été rendu vivant pour nous emmener vers la vie éternelle. Et Jésus dit, « Tu as été heureux du salut gratuit que je t'ai donné. » Bon, il n'a pas dit comme ça, là, mais en gros, c'est ça. « Tu as été heureux du salut gratuit que je t'ai donné. » Heureux. « Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Ce qui veut dire que pour la suite, Dieu a préparé des choses d'avance pour que nous en bénéficions. Hein. Mais ça, on ne sait pas. C'est dans les cieux. Et je suppose que si nous le savions, on en mourrait de joie. Hein. Donc, frères et sœurs, le plus grand argument que vous ayez pour amener d'autres personnes à l'obéissance de Christ, c'est la joie du salut. Je vous propose maintenant de prier. Et c'est fini. Seigneur notre Père, notre Dieu, combien tu es un Dieu, j'oserais dire bizarre, grandiose, mais curieux dans sa façon de construire le salut. Tu nous as donné le salut d'une manière qui ne permet pas à notre cœur de nous enorgueillir. Tu ne l'as pas fait pour que nous soyons petits, mais tu l'as fait pour que nous ne soyons pas en dehors du salut. Nous voulons te remercier de ce que tu t'intéresses aux petits que nous sommes. Tu les fais asseoir avec les grands, comme l'a dit Anne. Nous voulons te remercier de ce que tu as mis ta joie dans notre cœur. Cette joie ne vient pas d'une façon d'être ou d'une situation de paraître. Mais nous voulons te remercier de ce que c'est la certitude de ce salut que tu nous as donné. Nous comble de joie, même dans la souffrance, et nous permet de témoigner de ça devant le monde entier. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir des occasions d'exprimer la joie du salut, non seulement dans l'Assemblée, mais au travers de toutes les circonstances dans lesquelles nous passons dans notre vie profane. Enfin, Seigneur, tu vois, il n'y a rien de profane pour toi. Nous voulons te remettre notre vie qui, elle, si simple qu'elle soit, peut exprimer la joie du salut de la manière dont tu le voudras. Louange à toi pour ce salut parfait que tu nous as donné. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.